Bonjour, aujourd'hui dans En revenant de l'Expo, nous allons recevoir un personnage dont la vie a été vouée aux arts. Alors, c'était peut-être pas tout à fait volontaire au départ, mais n'empêche que sa vie s'est déroulée comme ça. Heureux hasard, photo, musique, danse, peinture, et quand je parle de hasard, c'est pas tout à fait un hasard. Parce que la vie pour Étienne Schwartz est faite de rencontres. Il a été directeur de la chapelle proche de la cité Saint-Gélis et aujourd'hui il dirige un lieu très particulier, rue des Artistes à Montpellier, c'est-à-dire à Figueroles. Et je vais résumer en disant, enfin si on peut résumer ce lieu, que c'est un atelier, qu'il est ouvert à la musique, au débat, aux rencontres, aux expositions, à l'écriture, à la lecture.
À la danse aussi.
À la danse. Donc, vraiment un endroit très particulier parce que polyphonique, je crois qu'on pourrait dire comme ça. Donc, nous allons passer une heure en compagnie d'Étienne Schwartz. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Et bonjour et bienvenue donc à tous. Et merci et bonjour aussi à Adrien qui aujourd'hui va assurer la technique. Alors, Étienne, je disais tout à l'heure que vous étiez probablement, vous aviez une vie qui était vouée aux arts, mais que vous êtes peut-être aussi un enfant de la balle quand même. C'est pas arrivé tout à fait là pour le coup par hasard.
Non, c'est pas par hasard, c'est vrai. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient extrêmement sensibles à la création artistique, à l'art. J'ai été élevé par ma mère qui adorait le ballet classique, le ballet russe, qui adorait la musique, qui adorait la peinture, qui m'emmenait dès mon plus jeune âge dans des musées un peu partout dans le monde. Et donc ça m'a vraiment formé, je pense. Ça montre l'importance, je pense, de l'éducation, de l'accompagnement des enfants aussi vers la culture, vers l'art. Et d'ailleurs, j'ai essayé après dans mes projets aussi de mettre en lien l'éducation et la création.
C'est la question que j'allais vous poser parce qu'effectivement, c'est pas entre guillemets donné à tout le monde. Que faisaient vos parents ?
Alors, ma mère, bon, c'était une personne assez cultivée qui parlait, lisait et couramment, parfaitement, je dirais, 6 langues. Et bon, c'était dans les années. Moi, je suis né en 56, donc c'était une personne assez en avance, si vous voulez, de son temps, parce qu'elle avait des origines iraniennes et russes. Donc, pour la culture, pour un grand-père, pour son père à elle, qui était iranien, elle était vraiment une battante et une sorte d'anarchiste. Une sorte d'anarchiste.
Quand on pense à l'Iran aujourd'hui, ça
voilà.
Fait un drôle d'effet.
C'est pas le même Iran. Hein. C'était l'Iran au temps du Shah. Et enfin, moi, je l'ai pas connu, mais ma mère m'en parlait. Et c'était quand même une société qui était. Quand on voit des photos, par exemple, des années 60, d'étudiants ou d'étudiantes iraniennes, elles ne sont pas en djihad, enfin en djihad,
elles sont à l'occidental.
Et voilà, c'était un monde très particulier. En plus, moi, ma mère était à l'école américaine, donc elle avait une éducation aussi différente.
Donc, votre maman vient d'un milieu assez aisé.
Ma mère vient d'un milieu très aisé.
Voilà. Oui, très aisé. Donc, ça lui a permis des ouvertures.
Au départ, oui, absolument. C'est extraordinaire, je trouve, parce que la vie, elle nous réserve des surprises qui paraissent pas toujours bonnes, parce que ma mère s'est retrouvée très, 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 très démunie et j'ai été élevé dans des conditions difficiles, très difficiles. Mais ça ne l'empêchait pas, en fait, par son éducation, d'être une adoratrice de la culture, de l'art, de la pensée. Donc c'est extraordinaire, quoi. Voilà.
Et votre papa ?
Et mon père, en fait, c'est une autre histoire, c'est très complexe aussi, parce que mon père... Ça vient aussi d'ailleurs, parce que mon père, il est hongrois, et en fait, il a connu les camps, toute la famille a connu les camps, en fait, toute sa famille a connu les camps, il est revenu des camps, il est parti au camp, il avait 13 ans, donc une adolescence... un peu difficile, un peu, mais en même temps qui était confronté à la vie réelle. Très jeune, il voulait être poète, metteur en scène, écrivain. Il voulait être écrivain et puis la vie a fait en sorte qu'il était en même temps responsable d'une famille, dont moi. Et donc très très jeune, il a commencé à travailler au lieu de suivre ses aspirations.
Mais il a pu écrire ?
Il a écrit, puis après il a mis de côté. Et je pense que j'ai repris le flambeau, même inconsciemment en fait. Voilà.
Ou consciemment.
Ou consciemment, mais ou consciemment. Je dis inconsciemment parce que comme je n'ai pas vraiment été élevé par lui, je l'ai rencontré un peu plus tard dans ma vie.
Donc,
j'ai été le voir.
Que votre histoire commence avec des parents qui sont quand même assez exceptionnels dans leurs origines.
Pour moi, en tout cas.
Oui, dans leurs origines. C'est, je veux dire, avoir une maman qui parle six langues, qui est née en Iran, un père qui est né en Europe de l'Est.
Oui.
Bon, et tout le monde se retrouve en fait en Belgique, puisque vous êtes...
Non, c'est pas tout à fait ça.
C'est pas comme ça.
En fait, tout le monde se retrouve quand j'ai un an. Je suis né en Israël. Donc, mes parents se sont rencontrés en Israël. Ah oui, vous ne savez pas tout encore. Je suis né en Israël en 1956, et puis ma mère, elle est en fait moitié russe et moitié iranienne. Donc, son père était iranien, c'était un patriarche iranien, et sa mère était russe, russe blanche, donc de culture occidentale. Et donc, tout ce beau monde se retrouve, quand j'ai un an, se retrouve en Allemagne. Et puis donc toute mon enfance je l'ai passée en Allemagne, et puis après vers 12 ans et demi j'ai migré avec ma mère en Belgique, voilà, à Bruxelles. Et puis à Bruxelles, une fois adulte, j'ai rencontré le monde de la danse. Et puis,
alors justement, on y arrive. Voilà. Ce que j'allais me dire, comment est-ce qu'on peut faire l'unité dans toutes ces influences, confluences que sont vos origines? Par où ça passe? Comment on arrive à se retrouver au milieu de ça et à ne pas être en fait quelqu'un de totalement parcellisé intérieurement avec des conflits de personnalité et culturel pratiquement?
Oui, je pense que j'en ai certainement des conflits. Mais en fait, ça prend une vie pour essayer de rassembler et de trouver du lien.
Je rassure nos éditeurs, il a l'air d'aller bien.
Non, je vais bien. Je suis très heureux.
Mais gros boulot. Alors, ça passe par la danse.
Ça passe par la danse aussi.
Au départ.
En fait, au départ, ça passe par...
C'est la photo ou la danse au départ?
Au départ, c'est la musique. Je commence la musique en fait à 5 ans.
J'ai de la chance, j'avais le choix entre 3 possibilités, voyez-vous. Et j'ai choisi les 2 plus mauvaises.
Oui, non, au départ c'est la musique en fait. La musique avec les arts plastiques en tant qu'amateur, spectateur, amoureux de visuel. Mais ça commence, ma pratique commence par la musique en fait, très tôt.
Alors que vous pratiquez? Parce que votre maman vous incite à le faire, parce
voilà.
Que vous avez un copain qui fait, je vais vous dire, le truc très classique de la guitare, et vous mettez
alors
la guitare.
Alors ça, c'est à Bruxelles, oui. Donc on se met à faire, on crée notre groupe, et encore maintenant, on est amis, on se retrouve de temps en temps, on a fait un concert il y a quelques mois, comme ça, on se retrouve depuis toujours, régulièrement, avec le plaisir de se rencontrer, de se retrouver, de jouer ensemble, et puis de partager, voilà, mais...
Donc, la musique au départ.
La musique au départ.
Puis la photo ou la danse? Alors là, je vous laisse...
La photo, et puis très rapidement la danse, en fait. La danse, parce que la musique aussi, elle touche à la danse. Je faisais de la musique, mais j'étais en même temps dans parfois, j'étais très intéressé, parce que je faisais du piano comme tous les enfants, mais j'étais intéressé
comme beaucoup d'enfants. C'est classique, le piano.
Voilà, c'est ça.
Comme la guitare et comme le violon. Voilà.
Comme le violon. Et alors donc, j'ai touché un peu à tous ces instruments, mais je recevais un enseignement de piano. Et puis très rapidement, je m'intéressais beaucoup, beaucoup aux percussions, dès l'âge de 8 ans en fait. Je suis tombé amoureux des percussions. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup exploré les percussions, de manière très, très autodidacte. Mais dès l'âge... ma première prestation sur scène en tant que percussionniste, j'avais 13 ans. Donc voilà, c'était... j'aimais ça. D'ailleurs, je n'étais pas conscient du tout que c'était un métier. J'aimais ça, je faisais ça, je vivais ça, je vivais l'art.
Et encore aujourd'hui,
oui.
Ça traverse votre vie.
Oui,
photo-danse.
Musique, photo-danse.
C'est la danse qui vous amène à Montpellier.
C'est la danse qui m'amène à Montpellier, voilà. Absolument. Je rencontre en fait Anne-Marie Porras à Bruxelles.
Qui est Anne-Marie Porras?
Alors, Anne-Marie Porras, c'est une personne qui a ouvert une école de formation à Montpellier, une école de formation professionnelle de danse à Montpellier en 81. Et je viens à cette occasion-là à Montpellier parce que j'avais envie de continuer à travailler avec elle parce qu'on s'était rencontrés à Bruxelles et on avait commencé à créer ensemble, à chercher ensemble, en fait, elle dans la danse, mais moi dans la musique. Et c'était très passionnant pour moi parce que ça me donnait une liberté totale de chercher, d'expérimenter. Et en fait, c'est ça qui, ma curiosité, en fait, était c'est ça qui m'intéressait dans la vie.
C'était... Et là, vous avez rapproché effectivement la danse, la musique.
Absolument.
Et la photo.
Non, la photo, elle est restée de côté.
Le corps.
Voilà, le corps. C'était vraiment le corps. La musique, le corps. Et la musique dans le corps, la musique du corps.
Alors, je vais un petit peu vite, hein, parce qu'on a presque une heure, mais quand
je
même...
Je redécouvre.
2000, La Chapelle.
Oui, le projet commence en 99 et on ouvre en 2000.
La Chapelle.
Alors ça, c'est extraordinaire, mon expérience de La Chapelle, parce que encore maintenant, elle est très présente en moi, et puis les rencontres que j'ai faites sont très présentes. En fait, pour moi... Bon, La Chapelle, c'est un projet qui a duré 16 ans, donc c'est long, c'est long, 16
projet,
ans.
C'est un projet, c'est une
réalisation.
Absolument.
Et en même temps, c'est un... Pour moi, le projet, l'aventure de La Chapelle est une réalisation, est une création artistique. C'est-à-dire, c'est pas simplement une direction d'un lieu administratif, d'un lieu où c'est... Non, c'est une réelle pensée, une réelle création permanente, hein, dont les composants sont en même temps des artistes, leurs pratiques, le public, les gens, les enfants. C'est un millefeuille, en fait, dans lequel la création artistique est au centre, et ma recherche personnelle, en fait, elle fait partie de ça.
C'est drôle parce que ça me rappelle ce que je disais tout à l'heure quand on a parlé de vos origines, où effectivement c'est un millefeuille de cultures, de gens, de pays, de langues qui se mélangent. Et on dirait qu'à La Chapelle, je ne veux pas faire de la psychologie de cuisine, je ne suis pas très bonne psychologue ni très bonne cuisinière, mais on dirait que La Chapelle, c'est un peu pareil. C'est cette volonté de faire se rencontrer des forces, des esprits, des fragilités, des faiblesses, du travail, du plaisir.
La vie. C'est un lieu de vie.
Donc, cette fameuse chapelle, elle est aussi située dans un endroit particulier. Moi, j'ai dit tout à l'heure, près de la cité Gély, donc tout à fait en haut de Figuerolles. Oui. Et c'est pas pour rien non plus, parce que là, il y a beaucoup de gens du voyage.
Bah, en fait, c'est pas près de la cité Gély, la chapelle est au cœur de la cité Gély, elle est au centre de la cité Gély, et donc au centre vraiment d'un territoire. À l'époque, c'était un ghetto gitan. Donc, c'est un territoire qui était extrêmement fermé, extrêmement... c'était un territoire gitan, et moi, je me suis retrouvé au milieu de ce territoire. J'avais loué, en fait, la chapelle à l'évêché, qui en était le propriétaire. C'était une chapelle qui n'était plus utilisée, c'était une chapelle récente.
Désacralisée
à ma demande, parce que je ne voulais pas, au bout d'un an de tractation avec l'évêché, ils nous ont accordé...
Mais consacré à l'art.
Et consacré à l'art, voilà, désacralisé et consacré à l'art. Et donc ça a été une aventure extraordinaire parce que tout était basé en fait sur l'écoute de l'autre, de la vie, de l'écoute, vraiment l'écoute dans le bon sens, cette écoute qu'on retrouve justement dans la création artistique, qu'on retrouve dans le milieu de la danse, alors, dans le corps, dans la musique, l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, le partage.
Vous me donnez une occasion, parce que là on a pratiquement terminé notre premier quart d'heure, on va faire une petite pause musicale dans quelques instants. Il nous reste une minute, donc 30 secondes, pour que vous me disiez quelle est votre plus belle émotion à La Chapelle.
Il n'y en a pas une, il y en a des milliers. Mais je peux vous raconter deux instants. La première fois qu'on a fait quelque chose à La Chapelle, c'était encore très, très... C'était une friche, hein, c'était vraiment très, très, très primaire, très premier. Il n'y avait pas d'installation son, il n'y avait rien. Et la première fois qu'on a fait une soirée, il y avait plein de danseurs, plein d'artistes. Et j'étais dans la sacristie, en train de préparer. Et puis, j'ouvre la porte et je vois plein de gens dans ce lieu. Extraordinaire. Une autre émotion très, très intense, mais... C'est un jour, je fais beaucoup de photos. En fait, je suis revenu à la photo pendant que j'étais à La Chapelle. J'ai fait beaucoup de photos et c'était aussi un lien, une manière d'être en relation avec la communauté gitane. Et un jour, une dame gitane, Lily, Elle vient vers moi et regarde mes photos et me dit « Oh là là, tu dois les aimer pour faire des photos comme ça. » Voilà.
Elle a tout compris.
C'est magnifique. Ça m'a bouleversé.
Une petite pause et puis on reviendra sur la chapelle tout de suite après.
Avec plaisir.
Nous sommes toujours avec Étienne Schwartz. Donc nous avons parlé de ce lieu de la chapelle, donc qui était cité au cœur de la cité Gély et que vous avez dirigé pendant un certain nombre d'années. Et je vous avais posé la dernière question juste avant qu'on écoute un peu de musique, c'était quelles étaient très rapidement deux ou une ou deux grandes émotions. Et j'allais vous dire, mais quelle était aussi votre plus grande désillusion, parce que ce lieu vous l'aviez créé pour que tout le monde s'y trouve, s'y rencontre, qu'on y mélange les arts, les âmes et l'humanité. Donc il y a sûrement aussi, puisque c'est humain, des désillusions.
C'est vrai. C'est vrai. Je pense que ma grande désillusion, ça a été la difficulté à la difficulté de créer le lien et le soutien avec les institutionnels, avec le soutien financier des subventionneurs. Alors que c'était un objet, si vous voulez, qui pouvait vraiment les servir, c'était un projet qui pouvait les servir et qui pouvait servir la population et qui pouvait servir le mieux vivre ensemble. En même temps, je pense que c'est un projet qui leur faisait peur parce que quelque part, j'étais en recherche permanente de...
Peur du dérapage ?
De l'essentiel.
Peur de la non-maîtrise ?
Non, j'étais en recherche permanente de l'essentiel, en fait. Et de ce qui, me semble essentiel. C'est, bien sûr, chacun peut avoir son essentiel.
C'est-à-dire ?
C'est,
en connaissant cet essentiel, on saura peut-être ce qui pouvait faire peur, effectivement, aux institutions.
Je me rends compte que...
C'est bien, les silences en radio.
Ouais, en fait, c'est vrai que je suis face à l'abîme du silence, mais qui est en même temps tellement rempli, en fait, d'émotions et d'écoute. D'écoute, voilà, d'écoute intérieure. Mais c'est une question remarquable, parce que ça bouleverse complètement les habitudes de réflexion et les habitudes de réponse. Et c'est extraordinaire. Alors, c'est très particulier, parce que moi, pendant toutes ces années de ce projet, moi-même, ce projet faisait partie d'une recherche permanente. C'est-à-dire, je n'avais aucune certitude de ce que ce projet était. C'est comme de la création, en fait. On entre dans quelque chose, on suit un fil. C'est un fil qui a duré longtemps.
Ça peut vous échapper à tout moment.
Ça peut échapper à tout moment.
Ou ça peut c'est une prise se de révéler risque. Totalement et bien au-delà tout de vos expériences.
Exactement. Et c'est une prise de risque permanent. Parce que c'est vraiment le lâcher prise en permanence et le déséquilibre pour avancer. Sans déséquilibre, on ne peut pas avancer.
La marche est un déséquilibre.
Voilà, exactement. Et la vie est une avancée permanente. C'est pas du tout. S'il y a aucun instant d'immobilisme, c'est même quand on a l'impression que rien ne se passe, qu'on est posé là et que rien ne se passe et qu'on est immobile. Non, non. La vie, elle avance. Elle avance vite et elle fait ce qu'elle a à faire. Et nous, moi, j'ai appris progressivement à essayer d'être à l'écoute de ce que la vie amenait. Des rencontres, des relations,
à les accueillir.
À les accueillir et à faire avec. Et c'est pas toujours facile parce que, en fait, nous, on nous apprend à être, à gérer, à décider des choses, à diriger les choses.
Et c'est la part de l'aléatoire
qui prend le dessus,
qui souvent est une part importante de l'art.
Absolument. Donc,
on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Gilles Balmé, qui est un artiste plasticien contemporain, un professeur à l'ESBA, qui dans son travail a une part d'aléatoire. Il choisira à partir de cet aléatoire ce qu'il peut conserver ou pas d'une œuvre.
Et les directions à suivre.
La chapelle, c'est une histoire qui commence mais qui se finit. Et là, oui. J'ai le sentiment que c'était votre bébé et que là, c'est un deuil, un vrai deuil.
Oui, absolument.
C'est un vrai deuil. Avec le trou qui suit
oui, c'est vrai.
Le gouffre qui se présente.
Mais en même temps, le deuil est un apprentissage extraordinaire.
On le dit toujours après, ça.
c'est vrai.
Pendant, c'est vrai. Non.
Mais j'en étais conscient, en fait, pendant le deuil, j'étais conscient de...
Qu'il y aurait un après.
Qu'il y aurait un après. J'étais conscient de ça. Et en fait, le deuil, c'est extraordinaire parce que c'est pas seulement le deuil d'un projet, parce qu'en même temps, c'était le deuil, un deuil de ma mère, un deuil de mon père, un deuil de projet, un deuil d'une relation sentimentale, enfin, d'un couple. J'ai l'impression d'avoir, effectivement, que la chapelle, elle a été un des deuils, et cette notion de deuil, elle est bien au-delà de la notion de chapelle ou de projet, c'est une acceptation de la vie.
On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, cette nécessité d'accepter
oui.
les choses quand elles se présentent.
Absolument.
Et d'en faire autre chose éventuellement.
Absolument.
Donc cette autre chose existe.
Et en fait, je suis remerciant de la fin de la chapelle. J'allais juste ajouter ça.
Ah oui.
Parce que la chapelle, c'était dur, c'était lumineux, c'était extraordinaire, c'est quelque chose qui a rempli ma vie, mais en même temps, c'était extrêmement dur. Je sais que j'ai usé des équipes, hein, j'ai usé des gens qui étaient auprès de moi, j'ai usé. C'était extrêmement dur, même pour moi, physiquement et mentalement, c'était un projet extrêmement difficile. Mais j'ai usé des équipes et je les remercie. Parce qu'ils étaient présents, puis à un moment donné, la charge était trop forte et ils sont partis. Parce qu'effectivement, moi, je, dans ce projet, je mettais tout au service du projet de la chapelle, en fait. Et donc, c'était difficile pour eux. Et je les remercie de m'avoir accompagné.
Alors, on verra que derrière la chapelle, il y a autre chose, bien évidemment. Mais il y a eu une espèce de période de transition.
Oui.
Et moi, je voulais vous parler, on a parlé beaucoup de la danse, on a parlé de ce qu'a été la chapelle, on a parlé un petit peu de la musique. Et je voudrais vous parler de quelque chose qui est arrivé dans ces moments-là aussi, c'est le numérique.
Ah,
ça,
oui,
ça
oui.
paraît curieux comme ça, mais je voudrais qu'on parle de ça, parce qu'effectivement, c'est aussi une façon de s'inscrire dans la vie,
oui.
et dans la modernité, et dans l'art, puisque au travers du numérique, on peut créer aussi, et je
Absolument.
Sais que vous êtes, aussi bien en photo qu'en peinture,
et qu'en
musique, quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec le numérique. On verra ensuite si vous en êtes revenu ou pas.
Avec plaisir. Alors, c'est vrai que le numérique, ça a été extraordinaire, parce que je me souviens de mon premier ordinateur avec lequel j'ai fait de la musique. C'était un Commodore C64. C64, ça veut dire qu'il y avait 64K de mémoire. 64K, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, c'est rien. C'est rien.
Aujourd'hui, c'est rien.
Aujourd'hui, c'est rien. Donc, donc j'ai adoré, en fait, cette relation avec un ordinateur qui est un outil qui, en même temps, a énormément progressé dès les années 80 et qui a... C'est l'outil du 20e, fin du 20e, 21e siècle. On est en plein dedans. Et aujourd'hui, quand je vois mes enfants, ma fille de 14 ans qui joue avec l'ordinateur. Elle est née avec, c'est complètement normal. Alors que bon, voilà, c'est un outil extraordinaire. Et donc, j'ai utilisé cet outil d'abord en musique. Et puis, très rapidement, je l'ai utilisé en peinture. En peinture, mais à l'époque, je peignais, je travaillais sur le dessin numérique, sur la peinture numérique, mais j'imaginais pas du tout montrer ce travail-là. C'était un travail parce que moi, j'avais besoin de créer tout le temps et que donc, j'avais besoin de découvrir des techniques et des matériaux différents. Et donc, l'ordinateur a été un outil, et en musique, et en peinture, et en photo, bien sûr, un outil remarquable.
Est-ce que ça a été un outil d'apprentissage, d'une certaine façon ? Des choses qui, justement, ne tiennent pas à la relation physique qu'on a avec la toile, mais à l'utilisation de l'espace, à l'assemblage des formes, des couleurs, à l'expression d'une pensée.
Alors, c'est
très intéressant. Est-ce que c'est plus simple quand on dispose d'un outil qui le fait pour vous, simplement sur le plan de l'expression, on n'a plus qu'à travailler sur ce qu'on veut faire sortir de soi.
Non, il ne le fait pas pour nous. Enfin, en tout cas, maintenant,
c'est
qu'il y a des outils. Oui, c'est nous qui dirigeons. Et alors, effectivement, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a l'impression qu'il y a des outils qui vont créer ou diriger à notre place. Mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. L'intelligence artificielle, elle ne fera rien, elle n'assemblera rien, elle ne fera rien que ce que nous, êtres humains, avons déjà fait ou proposé ou induit jusqu'à présent, jusqu'à
oui,
ce jour.
Peut-être
que ça évoluera différemment.
Je suis un peu inquiète pour tout vous dire.
Je comprends qu'on soit inquiet. Moi, je ne suis pas inquiet. Je trouve ça un outil extraordinaire. Après, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va devenir. Mais en tout cas, voilà. L'ordinateur était un outil assez extraordinaire. Et au début, quand j'ai fait de la peinture, c'était de la peinture digitale. Mmh. J'avais construit en fait une chaîne de production, une chaîne de création dans laquelle il y avait en même temps de l'aquarelle, de la gouache, des matières et de la photo, parce que la photo me permettait de prendre ces matières.
D'asseoir.
et de les entrer dans l'ordinateur.
Voilà, hein, d'asseoir votre création.
Voilà, et donc j'arrivais dans l'ordinateur, et dans l'ordinateur je créais, je peignais, j'assemblais, je faisais ce que je voulais, mais je passais toujours par un ordinateur.
Mais ça reste très technique.
Mais toutes les techniques sont au service de la création, et l'ordinateur pareil. C'est pas une finalité pour
c'est
moi.
C'est pas faux.
Pour moi, c'est pas une finalité.
C'est pas faux.
Et j'ai toujours utilisé l'ordinateur, les synthés, les échantillonneurs en musique, tout ça. Je les ai toujours utilisés
comme des outils. Alors,
comme des
ça
outils.
Doit rester des outils.
Absolument.
À votre disposition, et à aucun moment ils ne doivent prendre la main sur ce que vous voulez faire et sur l'authenticité ou
absolument.
La sincérité de votre démarche.
Ils jouent sur le hasard.
C'est là que c'est peut-être compliqué.
Ils peuvent jouer sur le hasard.
Encore.
Voilà. Donc, le hasard est extraordinaire. Mais par contre, ils ne prennent jamais le dessus et je ne me suis jamais intéressé à l'ordinateur en tant que programmeur, en tant que... Ça ne m'intéresse pas du tout. Même les premiers synthétiseurs, je ne programmais pas de son, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était l'utilisation de la matière sonore.
Est-ce que ça a été un refuge à un moment donné pour vous, au sortir de la chapelle, que de travailler effectivement... finalement sur ce que vous étiez et au travers de ces travaux que vous faisiez de façon... est-ce que vous avez pris un temps de recul avant de ressortir du bois,
absolument.
J'allais dire, à la,
oui,
à la demande de vos amis.
Donc, oui, c'est oui, oui mais c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement une expression, c'est une réalité, parce que c'est vrai qu'après la chapelle, j'ai passé 2 ans à travailler, à me questionner, à travailler, à créer beaucoup, à me rendre conscience qu'en fait, j'avais envie de retourner vers la création d'œuvres, enfin de création de peinture ou de musique. J'avais envie d'être simplement un artiste qui crée et qui ne s'occupe pas d'un lieu parce que
on
c'est
dit
une
que
charge
le deuil
énorme.
Amoureux dure à peu près 2 ans, c'était à peu près ça.
Ah bah oui, mais j'étais pas conscient de ça, mais oui,
c'est ce qui se
dit. À peu près 2 ans. Et en 2017, en fait, je décide effectivement, donc 2 ans après, premièrement, j'avais décidé de faire de la peinture mon domaine principal.
De prédilection.
Avant, voilà. Et je décide de faire une première exposition que je ne voulais pas faire dans une galerie ou dans un milieu, si vous voulez, artistique, entre guillemets, convenu. Hein, donc j'ai décidé, c'était le début de l'existence, en fait, du Gazette Café. Et ils ont été... très 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 gentil et agréable avec moi, que ce soit Pierre Serre qui est le fondateur de la Gazette, enfin je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est le big boss de la Gazette et donc aussi celui qui a imaginé le Gazette Café, et puis la personne qui s'occupait de la mise en place artistique du Gazette Café, ils m'ont laissé carte blanche, hein. Et donc c'était magnifique, et j'ai fait une première exposition qui n'était d'ailleurs pas simplement une exposition, mais qui était une exposition. Le prétexte d'une exposition.
Mais le titre est évocateur, Coming Back, Coming Out.
Exactement. Exactement.
Et ça, ça veut tout dire.
Ça veut tout dire.
Je reviens et je sors.
Et je sors et j'ouvre
montre,
parce que les gens ne me connaissent pas comme peintre.
Oui, oui.
Parce que les gens ne me connaissent pas comme peintre. Ils me connaissent à peine comme compositeur. Ils me connaissaient surtout comme directeur de la chapelle. Et donc voilà, je fais Coming
vous
Out.
Vous sortez de la
back.
Chapelle et vous entrez dans l'ancien garage. À la Gazette.
Après.
C'est
voilà,
drôle.
C'est
non, mais
c'est vrai.
Mais non, la Gazette est aussi un ancien garage.
Absolument.
Il y en a encore un autre dont vous allez nous parler, mais la
oui.
Gazette est un
oui.
ancien garage. Et
absolument.
C'est drôle, la vie des lieux aussi, si vous voulez. C'est ça qui
oui.
est intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de lieux qui ont des vies très compliquées, finalement, et très opposées à ce qu'ils
très
étaient
vivante,
à l'origine.
Hein, très
et très vivantes.
Hein. Elles s'adaptent. Hein.
Et donc là, les gens découvrent un autre Étienne Schwartz.
Une autre facette.
Oui.
Alors, effectivement, ce jour-là, j'ai besoin de toucher à tous les domaines. Et donc, je fais en même temps, j'instaure une émission radio avec Monica Zerbib, une émission en direct, début de soirée, et puis après il y a un vernissage, et puis après il y a une soirée avec des musiciens, des danseurs, il y a... Mais le hasard de la rencontre qui se cristallise là, et le hasard de réseau d'amour des artistes.
Et
de
tiens,
ceux
vous
qui
savez que dans cette émission, les quarts d'heure durent 2 minutes et demie. Donc nous arrivons à la fin de notre deuxième quart d'heure,
bon,
c'est ça.
D'accord.
Il nous en reste un. Et là, on va parler du lieu donc, que vous occupez aujourd'hui, la Factory. Et toujours à votre façon bien personnelle. À tout de suite, on écoute de la musique. Alors, je rappelle que c'est lui le coupable. Hein. C'est Étienne qui a choisi les musiques. Si elles ne vous plaisent pas, on vous donnera son numéro de téléphone. On ne le fera pas en direct à l'antenne, mais on pourra vous donner son numéro de téléphone et ses coordonnées. À tout de suite.
Absolument.
presque peur en vérité, tant je sens ma vie enlacée à la radieuse pensée qui m'a pris l'âme l'autre été. Tant votre image à jamais chère habite en ce cœur tout à vous, mon cœur uniquement jaloux de vous aimer et de vous plaire. Et je tremble, pardonnez-moi, d'aussi franchement vous le dire, à penser qu'un mot, un sourire de vous est désormais ma loi. Et je tremble, pardonnez-moi, d'aussi franchement vous le dire, à penser qu'un mot, un sourire de vous est désormais ma loi. Et qu'il vous suffira d'un geste, d'une parole ou d'un clin d'œil, pour mettre tout mon être en deuil de son illusion céleste. Mais plutôt je ne veux vous voir l'avenir d'utile, maître sombre et fécond, en peine sans nombre, qu'à travers un immense espoir. Et je tremble, pardonnez-moi, d'aussi franchement vous le dire, à penser qu'un mot, un sourire de vous est désormais ma loi. Et je tremble, pardonnez-moi, d'aussi franchement vous le dire, à penser qu'un mot, un sourire de vous est désormais ma loi. Plongé dans ce bonheur suprême de me dire encore et toujours, en dépit des mornes retours, que je vous aime, que je t'aime.
Merci à Adrien qui assure la technique aujourd'hui sur Radio Plus FM. On le remercie. Bon, alors, c'est agréable parce qu'il écoute l'émission et ça, c'est très, très bon signe. On est avec Étienne Schwartz qui est passionnant et avec lequel nous sommes rentrés dans des discussions assez profondes au travers, effectivement, de sa vie d'artiste, mais aussi, j'allais dire, de rassembleur, un peu comme s'il était inscrit chez lui, de rassembler les gens, de rassembler les morceaux, de partager tout ça.
De rassembler mes morceaux.
Vos morceaux, des autres, oui. Ça tient probablement à la façon dont vous vous êtes construit, peut-être probablement aussi depuis l'enfance.
Donc, en tout cas, ça tient aussi, cette émission, aux questions que tu poses et qui me touchent et qui me mettent dans une réflexion. Dans une écoute.
Mais c'est un dialogue.
Voilà, je t'en remercie. Vraiment.
Donc, en fait, ce sont des amis qui vous signalent à un moment donné, après que vous ayez fait votre coming out en peinture, qui vous signalent un lieu au pied, j'allais dire, de la chapelle, si je puis dire, parce qu'il faut descendre de Saint-Gély à la rue du Faubourg de Figuerolles ou le quartier Figuerolles. Oui. Et là, il y a une rue dans laquelle il y a un garage.
Voilà. Alors
donc
ça
c'est un deuxième garage.
C'est un deuxième garage, mais qui a déjà été transformé, réhabilité par la mairie. En fait, c'est la rue Général Vincent qui a. C'est le projet de la mairie de faire de cette rue, qui est une rue un peu. Comment dire. Ouverte à l'économie parallèle, disons-le comme ça. Une rue qui n'est pas très fréquentée, qui n'est pas. Bon, qui est un peu. Pas vivante, disons-le comme ça. Pas vivante, en tout cas, pour pas ouverte.
Quartier,
pas ouverte.
Pour le quartier, voilà. On va dire. C'est une rue, effectivement, à cette époque-là, parce que oui. Les choses sont en train d'évoluer grandement, et dans le quartier aussi, d'ailleurs.
Voilà, et c'est un projet qu'ils mettent en place avec l'ANRU, c'est l'Agence Nationale de la Réhabilitation Urbaine, qui travaille sur les quartiers, entre guillemets, difficiles. Et donc, effectivement, Figueres, ça fait partie d'un quartier difficile, d'un quartier particulier, prioritaire, voilà, le mot plus juste.
Moi, je crois qu'il faut dire les choses. Hein. Ce sont des quartiers où, effectivement, il y a des trafics divers et variés qui polluent l'ambiance d'un quartier populaire.
Vie ensemble.
Populaire et où la vie ensemble serait finalement assez simple.
Oui, tout à fait.
Je crois qu'il ne faut pas se cacher les choses.
Le projet magnifique de la mairie, je trouve magnifique, c'est effectivement de racheter tous les bas d'immeubles qu'ils peuvent racheter progressivement et puis de faire un projet où tous ces rez-de-chaussée deviennent des ateliers au service d'ateliers des artisans d'art ou des artistes. Et c'est un projet magnifique parce qu'effectivement ça permet de faire un levier pour changer cette rue, pour la redynamiser autrement.
Lui donner un autre éclairage.
Voilà.
Alors ça, c'est la rue du Général Vincent, mais ce n'est pas que dans cette rue-là. Celle-là est dédiée, elle s'appelle rue des Artistes. Mais c'est vrai que tout le quartier, actuellement, fait l'objet de réhabilitation.
Absolument.
On est en train, entre guillemets, on va dire, d'assainir. Et de donner un nouvel éclairage à ces rues qui sont assez typiques, en plus.
Oui, absolument. Et donc, voilà, je dépose un projet à la mairie qui est accepté d'occupation d'un de ces locaux. Et donc en 2019, en fait, j'entre dans ces locaux-là qui ont déjà été réhabilités et qui ne sont plus un garage, qui deviennent ce que j'appelle l'art factory, la factory.
Je suis étonnée que vous ayez choisi un terme anglais. D'autant plus que le mot usine, c'est beau.
En fait,
la fabrique, c'est beau.
C'est vrai. Mais en fait, j'avais un autre. Entre temps, j'avais travaillé sur un autre projet qui s'appelle l'usine, en fait, et qui est un lieu près de Vigan, dont j'avais acheté dans une usine désaffectée. Qui voulait être transformé en friche artistique. J'avais acheté une parcelle et j'avais encore projet là-bas de faire l'usine, ce qu'on appelle l'usine. Et en fait, je n'ai pas suivi ce projet-là, parce que c'est à plus d'une heure de Montpellier. J'ai une fille qui aujourd'hui a 14 ans et j'avais très très envie de rester proche d'elle, d'être présente dans sa vie et puis d'assumer de faire un choix, en fait, d'être un père présent. Voilà. J'avais fait ce choix-là, et puis donc, je voulais pas partir à une heure de Montpellier, c'était trop loin. Et donc, c'est pour ça que le projet, effectivement, rue Général Vincent est tombé à pic. Et en fait, le projet à art, à l'usine, c'est une autre personne, un autre artiste qui est en train, depuis des années, en train de le développer. Il s'appelle Philippe Vu. C'est un ami, c'était un vidéaste avec qui j'ai travaillé beaucoup, en fait, à La Chapelle, qui a fait beaucoup de films avec moi ou sur La Chapelle. C'est devenu un ami et qui a repris le flambeau de l'usine. Et qui est en train de le réhabiliter,
donc ce
restaurer.
Projet vivra.
Il vivra, et c'est extraordinaire. Le travail qu'il fait est extraordinaire, et c'est vraiment, c'est magnifique. C'est un très très beau projet qu'il est en train de porter, qu'il est en train d'amener.
Donc la factory, c'est l'usine, mais de Montpellier, d'une certaine façon.
Voilà, quelque part, Mais déjà, La Chapelle, en fait, c'était un lieu de fabrique artistique. Mmh. J'avais nommé comme ça, lieu de fabrique artistique. Donc, y a, parce que je suis très sensible, en fait, que de fabriquer des choses, de s'investir, de fabriquer des objets ou des musiques pour moi c'est très physique quelque part, c'est très, et je suis très admiratif, en fait, de ces gens qui, de leurs mains et de leur esprit, cherchent, avancent et fabriquent, et voilà, ça me touche beaucoup.
Ce que vous faites vous-même, puisqu'on a beaucoup parlé de création numérique,
oui,
et vous êtes revenu, vous,
à la
peinture et à la matière,
oui,
sur la toile, parce qu'il y a eu à un moment donné le besoin d'une confrontation à la fabrique de l'art.
Il y a ça. Et en même temps, c'est une recherche intérieure aussi de lâcher. Parce que je me suis rendu compte qu'un jour, que pourquoi je travaille avec l'outil ordinateur ? Parce que l'ordinateur me donne l'impression, qui est fausse, parce que je ne l'utilise pas, mais il me donne l'impression de pouvoir revenir en arrière. C'est-à-dire de faire quelque chose et on peut revenir
le
en
repentir.
Arrière. Exactement.
Le repentir.
Et donc, à un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut, pour faire le déséquilibre, pour passer le cap, pour franchir, pour faire le pas, il faut lâcher prise et accepter qu'on ne peut pas revenir en arrière.
Donc ça veut dire accepter la chute, accepter le succès.
Oui.
Accepter le rien.
Le rien. Et la chute fait partie de l'avancement.
Tout à fait.
Ça fait partie de ça.
Donc, c'est vraiment la thématique de cette émission aujourd'hui, puisqu'on revient toujours sur cette nécessité de laisser les choses se faire, de diriger ce qu'on peut, mais de ne pas aller au-delà de ce qu'on ne peut pas faire.
Exactement. D'accepter la vie comme un partenaire primordial.
Et ce lieu ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il est tout.
Et rien.
Et rien. Mais je le dis volontairement parce que rien n'est défini dans cet endroit. Il y a un piano, il y a un sofa, il y a du thé chaud, il y a des murs qui attendent
des
expositions. Là, vous exposez actuellement, vous allez petite pause à la fin de l'année.
Je mets mes propres peintures pour l'instant.
Mais c'est un endroit qui attend.
Qui accueille.
Et qui
j'aime
peut,
bien cette notion d'écrin d'accueil.
Voilà.
Un écrin dans lequel les choses peuvent se passer.
Tout à fait. Voilà. Et où on peut attendre soi-même.
C'est ça.
C'est-à-dire tout ce que les autres peuvent nous apporter, tous les échanges et tous les croisements.
Absolument.
Et c'est rare comme endroit.
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est profondément ce que j'ai envie. Et j'ai en fait, avec la Factory, je suis enfin arrivé, c'est peut-être aussi une question d'âge, d'âge, de vie, je suis enfin arrivé à accepter simplement ce que je vis, ce que je ressens, ce que je cherche comme une réalité, et ne pas devoir entrer dans un formalisme qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que je suis bien sûr obligé d'être dans un formalisme par rapport aux impôts, par rapport à l'administration, par rapport à ça, par rapport à ça. Mais ce qui est porteur, le fond de mon existence, c'est ce que moi je vis, ce que je ressens et que j'essaie de partager avec les autres.
Lorsque nous avons préparé cette émission, en laissant évidemment une part d'aléatoire, ça fait partie du jeu, j'ai l'habitude d'envoyer à mes invités un peu les propos que nous avons échangés avant l'émission. Et je vous ai dit, Étienne, je vais vous envoyer... Oh non, pas du tout, surtout pas. Donc je ne vous ai rien envoyé.
Hein. Oui,
donc, on travaille un peu à vue. Moi, je sais à peu près où j'ai, mais on travaille un peu à vue quand même. Et j'ai le sentiment que je vous ai dit, mais quel est votre programme pour ce lieu ? Parce que, bon, effectivement, c'est un lieu culturel, donc c'est supposé avoir une programmation. Vous parliez du Gazette Café, il y a une programmation Gazette Café. Bah, dis-moi, à un mois ou deux mois devant, je ne sais pas.
Oui. Tout à fait. Mon projet le plus lointain actuellement, c'est un projet d'exposition, de performance, de rencontre entre des domaines artistiques différents avec l'Institut Confucius, avec une artiste chinoise, et où on inviterait d'autres artistes à travailler dans cet espace-là et à créer ensemble, sur 3 semaines, à créer ensemble un espace d'exposition et des œuvres.
Donc ce serait à la fois un atelier, une résidence, un lieu de création.
Et des performances en public, en présence du public.
Ouais.
Et en même temps de conférences, en même temps de concerts, en même temps. Tout ça en même temps sur 3 semaines. Une programmation riche, mais qui est. Voilà, c'est mon prochain projet.
Mais j'allais vous dire, mais c'est un gros bazar.
C'est un gros bazar.
Comment allez-vous vous y prendre ?
Mais je ne sais pas, on va le faire, c'est tout.
voilà, c'est Étienne, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, ça va venir.
Bon, oui, c'est ça.
En fait, vous parliez un peu d'entrer en résistance à un moment donné. Que vouliez-vous dire ? Je sais que vous ne faites plus appel aux institutions. Est-ce que ça vous donne une liberté particulière et peut-être effectivement une façon de résister au temps, à la société, aux pressions ?
Alors voilà.
À vous-même.
Je pense que j'avais besoin de ce temps de ne plus être un partenaire avec les institutions. ou que, les que l'institution ne soit plus un partenaire. J'avais besoin de ce temps pour effectivement asseoir ma liberté, je pense, et l'écoute de moi-même.
Vous n'étiez pas libre à la chapelle ?
J'étais tout à fait libre dans la programmation. J'étais tout à fait... Le projet artistique, j'étais complètement libre et je les en remercie parce qu'il y avait une énorme confiance, parce que c'était un millefeuille de projets. Mais je me battais en permanence aussi pour leur... Parce que c'est normal de rendre des comptes, parce que c'est de l'argent public. On doit rendre des comptes, c'est normal. Et tous les ans, on rendait des comptes, on faisait un projet. Mais à la longue, c'était fatigant. Enfin, c'était énorme d'arriver à convaincre des partenaires. Alors que la première chose, c'est d'avoir des partenaires dans le sens qu'ils sont avec. Et non pas avoir besoin d'œuvrer, de lutter pour qu'ils soient avec. Cet engagement, cette compréhension d'un projet doit venir d'eux. Et j'en avais assez d'être tout le temps dans ce besoin de convaincre.
De combattre, c'est ça.
Il faut que... C'est clair ce qu'on fait, de séduire. J'en avais assez de ça. Alors c'est assez étrange, la dernière fois qu'un institut... Je vais être très, très franc avec vous. Je suis en amitié, par exemple, avec Michael Delafosse. C'est-à-dire, on n'est pas amis intimes dans le sens de boire un verre ensemble tous les jours, un truc comme ça.
Mais vous le connaissez.
On se connaît, et puis quand on se voit, j'ai de l'affection pour lui, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui s'engage, qui certainement, comme tout être humain, fait des erreurs.
Non, il ne faut pas confondre les élus et l'administration.
Non, absolument.
Voilà, l'administration fait ce qu'elle veut.
La dernière fois qu'un élu, que je ne nommerai pas, m'a fait une remarque, c'était pour Montpellier, capitale culturelle, pour l'organisation de ça, pour la préparation de ça, et un élu m'a dit, non, vous n'avez pas été convoqué à cette réunion, parce qu'il y avait dans cette réunion que les structures, que les personnes structurantes. Et là, ça m'a fait tomber les nues. Ça m'a fait tomber des nues parce que c'est manifestement une personne qui aujourd'hui est dans le domaine institutionnel, a un pouvoir dans le domaine institutionnel, a un rôle à jouer dans le domaine institutionnel et qui manifestement ne connaît absolument pas les racines de ce qu'il sait de ma vie, de ce que j'ai donné à la municipalité, ce que j'ai donné au public, que j'ai donné aux politiques pendant des années. Et qui n'est pas conscient de ça, qui n'est pas au courant de ça, et qui me traite comme quelqu'un de non structuré et de non structurant. Ça m'a fait tomber les nues.
Vous êtes chez vous, à la factory, vous y êtes bien.
Je suis bien.
Vous décidez de ce que vous voulez
et surtout,
faire.
Surtout, je suis chez moi.
Avec... C'est ça, vous êtes chez vous.
Et absolument.
Et on ne vous en délogera pas, c'est ce que ça veut dire.
C'est ça,
voilà.
C'est ça.
Et donc, vous décidez du temps.
Je décide du temps.
Avec
je
lequel vous ferez les choses et des choses que vous ferez.
Voilà.
Vous avez dit quelque chose qui m'a paru important quand on a travaillé ensemble. Ma manière de vivre l'art est juste ma manière de vivre.
Absolument.
On va conclure là-dessus, si vous le voulez bien, Étienne.
Avec plaisir.
Et moi, je voudrais juste remercier Adrien qui était à la technique aujourd'hui. Je voudrais dire que tout de suite après, vous allez pouvoir écouter avec plaisir, j'espère, votre émission de jazz. Et puis, je voudrais juste donner une petite information. Le directeur des collections du MoCo est décédé il y a quelques jours. Et le MoCo a décidé d'offrir la gratuité de ce musée jusqu'au mois de janvier. Je vous préciserai probablement dans un agenda la date de finale de l'exposition en cours, mais l'exposition en cours est gratuite pour tout le monde jusqu'à son terme. Donc je ne peux que vous encourager à aller au MoCo et aussi à visiter des lieux qui sont des galeries ou des lieux plus atypiques comme la factory d'Étienne Schwartz.
Bienvenue, avec plaisir.
Rue des artistes.
Alors, c'est la rue Général Vincent, c'est juste à côté du plan Cabane.
Parce que ça, on peut aussi rentrer gratuitement, et c'est important de pousser ces portes qui n'attendent que ça d'ailleurs, et de pouvoir discuter avec les gens qui s'y trouvent et qui généralement sont des passionnés d'art. Merci à tous, je vous souhaite un très très bon week-end. Cette émission sera rediffusée dimanche à 20h. Au revoir.
Merci. Thank you.
had that Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush in Buffalo. She said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet, and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray-green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in. I couldn't come in right then. And so she wandered through the doorway just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps right past a fuming incense stencher to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were on concho and it was useless anymore. She had a snake for a pet and an amulet, and she was bleeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was alright, but I couldn't come in. Actually, that was very busy. And so she wandered through the doorway just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps right past the fuming incense stencher to where she hung her castanet. She said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho or is that a Sears poncho? No fooling.